Le journal Alexandra Duboucheron, bonjour.
Bonjour à tous. La solidarité internationale s'organise au Liban alors que l'aide a déjà commencé à arriver sur place. La grande conférence des donateurs s'est aujourd'hui présidée par Emmanuel Macron. Les Libanais, eux, attendent un changement politique avant tout, vous l'entendrez. L'autocrate Alexandre Loukachenko devrait être réélu aujourd'hui en Biélorussie, mais un vent démocratique souffle sur le pays. Reportage à suivre. En France, la canicule frappe toujours. On vous donne quelques conseils pour vous protéger de la chaleur et puis reportage dans un parc de Bordeaux. Le masque obligatoire dès demain à Paris contre le coronavirus. Pas de sanctions tout de suite, promet la mairie. Le sport avec de la moto. Aujourd'hui, un doublé tricolore historique sur la ligne de départ du Grand Prix tchèque. Et puis on vous parlera de la planète Mars. C'est la nuit des étoiles en ce moment et elle est visible à l'œil nu.
France Inter.
La communauté internationale au chevet du Liban, 5 jours après la catastrophe du port de Beyrouth, et alors que le pays traverse la pire crise économique de son histoire, dans une heure environ s'ouvre la conférence des donateurs. Emmanuel Macron la co-présidera depuis le fort de Brégançon, où il passe ses vacances. En ligne aussi l'autre co-organisateur, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et les représentants de l'UE, des États-Unis, du Royaume-Uni, Chine et Russie, entre autres. La communauté internationale qui n'a pas attendu ce rendez-vous, Christian Chesneau, pour envoyer de l'aide sur place.
Paris annonce 3 vols militaires ce week-end pour acheminer 13 tonnes de produits alimentaires et 3 tonnes de médicaments. Le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre doit appareiller aujourd'hui de Toulon, ainsi qu'un cargo affrété par l'armée française qui partira, lui, en début de semaine. Au total, ce sont 200 tonnes de farine et de produits laitiers, 134 tonnes de rations alimentaires et 75 000 litres d'eau potable et des matériaux de construction qui seront embarqués. Sur le terrain à Beyrouth, la mobilisation internationale ne faiblit pas. L'Égypte, la Jordanie et le Qatar ont décidé d'envoyer des hôpitaux de campagne sur place. L'Iran a également proposé une aide médicale ainsi que la Turquie. L'Algérie a annoncé l'envoi de 4 avions et d'un bateau chargé de vivres et de matériaux de construction. Même solidarité en Tunisie qui a affrété 2 avions militaires d'aide et qui a annoncé la prise en charge médicale de 100 blessés dans l'explosion du port de Beyrouth. Au plan financier, le Canada a lancé un fonds de secours pour le Liban, tandis que l'Autriche va débloquer 1 million d'euros pour l'aide d'urgence, une enveloppe mise à la disposition de la Croix-Rouge et d'ONG.
Christian Chesneau pour France Inter, et cette conférence des donateurs aujourd'hui doit marquer le début d'une démarche d'urgence et d'espoir pour l'avenir, a indiqué l'Élysée. L'ONU a chiffré à 85 millions de dollars les coûts des seuls besoins de santé au Liban. Mais au-delà de l'aide, les Libanais attendent un changement politique. Ils l'ont réclamé hier par milliers dans les rues de la capitale meurtrie. Message de nouveau martelé ce matin sur notre antenne par Nadim Houri, directeur exécutif du think tank Arab Reform Initiative.
La communauté internationale doit bien sûr être à côté des Libanais et du Liban au niveau de la gestion humanitaire, mais avec une question essentielle: comment s'assurer que l'aide humanitaire ne sert pas à redonner de l'oxygène à cette classe politique corrompue, parce qu'on sait très bien qu'ils attendent à utiliser cette aide pour renflouer leur caisse, la caisse de ces partis politiques, et renforcer leur clientélisme. Donc il faut s'assurer un maximum de transparence, il faut autant que possible soutenir la société civile et les indépendants, et ne pas donner de l'oxygène à cette classe politique corrompue. La France n'a pas simplement été l'amie du Liban et des Libanais, la classe politique française a été aussi l'amie de cette classe dirigeante libanaise. On sait très bien que le général Aoun a passé des années d'exil ici, on sait très bien que le président Macron s'est déplacé en Arabie Saoudite pour quelque part, entre guillemets, sauver le premier ministre Habibi, on sait très bien que le président Chirac avait soutenu Wafi Habibi. Il faut aujourd'hui que le président Macron, la France et la communauté internationale mettent en avant leur amitié pour les Libanais et pour le Liban et quelque part laissent tomber leur soutien à cette classe politique corrompue.
Nadim Houri, invité du 7h50 d'Inter ce matin, il répondait à Laetitia Gaillet. Entretien complet à retrouver sur franceinter.fr. De nouveaux appels à manifester ont été lancés à Beyrouth aujourd'hui et ce matin, on a appris la première démission d'un membre du gouvernement, la ministre de l'Information, Manal Abdel Samad, qui dit s'excuser auprès des Libanais pour n'avoir pas su répondre à leurs attentes. En Biélorussie, il n'y a pas vraiment de suspense. Alexandre Loukachenko devrait être reconduit pour la 6e fois à la tête de l'ex-république soviétique qu'il dirige d'une main de fer depuis 26 ans. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin. Mais quel que soit le résultat, cette campagne présidentielle a changé quelque chose dans le pays. Grâce à Svetlana Tikhanovskaya, 37 ans, la candidate de l'opposition qui a su rassembler les foules. Grâce à elle, les Biélorusses osent enfin de nouveau s'exprimer. Reportage de l'envoyé spécial de RFI, Daniel Valo, à Minsk, la capitale.
Un concert de klaxon pour soutenir l'opposition et pour défier le président biélorusse. Au volant de sa vieille voiture grise, Denis participe une fois encore à cette nouvelle forme de contestation en Biélorussie, avec autour du poignet le bracelet blanc des partisans de l'opposition. Le blanc, c'est un symbole de protestation. On lève le poing, on se reconnaît entre nous et c'est pour ça que les gens klaxonnent. Parce que nous voulons que cet homme s'en aille. Un discours aussi ouvertement hostile envers Alexandre Loukachenko aurait été impensable il y a encore quelques semaines. Mais la campagne menée par Svetlana Tikhanovskaya a changé la donne. C'est le sentiment d'Ilia et d'Anton qui soutiennent eux aussi l'opposition.
Les gens sentent qu'ils peuvent choisir leur avenir comme dans un pays européen. Et cette année, il y en a qui iront voter pour la première fois depuis 20 ans. Les gens veulent du changement et ils ont vu émerger de nouveaux dirigeants.
Les gens ne voient pas de futur avec Loukachenko. Ils sont fatigués de lui. 26 ans au pouvoir, c'est dingue. Ils en ont tellement marre qu'ils pourraient élire n'importe qui d'autre.
L'opposition a relevé la tête en Biélorussie, mais elle ne se fait guère d'illusions sur l'issue du scrutin. Faute d'observateurs indépendants, les adversaires du président biélorusse attendent à des fraudes massives lors du dépouillement. Daniel Valot, Minsk. RFI pour France Inter.
Les résultats définitifs sont attendus demain matin. L'opposition annonce d'ores et déjà une manifestation dans la soirée et Alexandre Loukachenko promet, lui, de ne pas perdre le contrôle de la situation. À l'étranger, en bref, l'Assemblée des dignitaires afghans approuve la libération de 400 prisonniers talibans, préambule nécessaire à l'ouverture de négociations de paix. Et puis les États-Unis renforcent leur soutien à Taïwan, officiellement territoire de la République de Chine. Le secrétaire américain à la Santé a entamé une visite de 3 jours sur place. Il doit rencontrer la présidente Tsai Ing-wen qui tient tête à la puissance de Pékin.
France Inter, le journal de 13h. Alexandra Dubouchereau.
Un quatrième jour de canicule sur le nord de l'Europe et cet épisode devrait durer au moins jusqu'à mardi. En France, 15 départements sont toujours en rouge et 49 en orange. On fera un point météo complet avec Jean-Pierre Hameau à la fin du journal. En attendant, pour se protéger de ces chaleurs, on n'a pas toujours les bons gestes. Alors voici quelques piqûres de rappel avec Valérie Massip de France Bleu.
Le conseil numéro 1, c'est de s'hydrater en buvant de l'eau, mais pas plus de 2,5 litres par jour, parce qu'au-delà, cela peut faire diminuer la concentration de sel dans le sang et ce n'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas boire glacé non plus, parce que le corps se met alors à produire plus de chaleur. L'idée d'ailleurs, c'est aussi de le mouiller, ce corps, en prenant des douches, mais tièdes. Vous pouvez aussi vous asperger d'eau avec un brumisateur sur les avant-bras, les jambes, le cou, le visage. Et pour votre logement, vous pouvez l'aérer, mais quand la température extérieure est inférieure à celle de l'intérieur. Le reste du temps, fermez vos volets et apprenez à vivre dans la pénombre. Mettre des plantes devant son logement peut aussi aider à en faire baisser la température.
Des plantes, oui, comme le disait Valérie Massip, et encore mieux, des arbres en ville. Beaucoup de parcs ouvrent en nocturne pour permettre aux habitants de se rafraîchir. C'est le cas du jardin public à Bordeaux. Et ici comme ailleurs, Laetitia Evelyne, on traque l'ombre des arbres.
Oui, de l'ombre, de l'air, un semblant de fraîcheur, surtout quand on habite en appartement comme Caroline.
Un coup qu'on est dedans, ça va. Il faut faire les ventilos et ça va. Mais bon, on est mieux ici quand même.
À quelques pas, Antoine vend des glaces et des boissons fraîches.
Bonjour, il me faudrait une bouteille d'eau gazeuse.
Oui.
Vous avez deux pailles.
J'ai que des gobelets par contre.
Il avoue que l'ambiance dans sa petite cabane en temps de canicule est plutôt étouffante.
C'est un peu compliqué. Là, ici, il fait assez chaud quand je suis à l'intérieur, mais après, voilà, ça se gère. Quand il fait chaud, en général, j'ai pas trop de clients non plus. Ils viennent souvent en fin de journée, ou voir vraiment s'il fait chaud, comme par exemple hier ou la semaine dernière. Très, très peu de monde dans le parc, quoi. Vraiment très peu.
Maxime, lui, a trouvé un banc à l'ombre. Le mot magique.
Oui, l'ombre, j'aime plus l'ombre que le chaud, parce que le chaud, ça rend mal à la tête.
Pas de mot de tête pour Tom, bien calé sur les épaules de son papa, toute la famille fait demi-tour.
Le parc, c'est pas la bonne solution, on est allé sur l'aire de jeu, mais il y a du soleil, donc il fait beaucoup trop chaud.
Ils reviendront en soirée, ravis que le parc reste ouvert jusqu'à 22h.
Un reportage France Bleu Gironde de Laetitia Evelyne pour France Inter. L'été sera chaud, mais l'été sera masqué. Coronavirus oblige, le masque se généralise en plein air, il s'imposera naturellement à assure ce matin dans le journal du dimanche Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique auprès de l'Élysée. En attendant, il faut forcer un peu la main des Français en le rendant obligatoire. C'est le cas, par exemple, dès demain 8h dans une centaine de rues de la capitale. Mais pas question de sévir tout de suite. Place d'abord à la pédagogie en cas de contrôle. C'est ce qu'a assuré Audrey Poulvard tout à l'heure, l'ex-journaliste et désormais adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.
Cette décision sera appliquée avec beaucoup de pédagogie dans un premier temps. C'est pas dès demain 8h que les carnets de contravention vont sortir. Il va y avoir toute une phase de pédagogie à l'égard de la population et d'accoutumance de la population à ces nouvelles règles. Et puis ensuite, éventuellement, les contrevenants seront sanctionnés. On prévoit aussi bien la préfecture de police que la ville plusieurs jours. Vous avez encore quelques jours. C'est pas une raison pour ne pas le porter. C'est quelques jours pendant lesquels il y aura une tolérance parce que effectivement, on attend que chacun prenne de bonnes habitudes. Mais d'ici probablement une semaine ou une dizaine de jours, les remarques seront un peu plus sèches de la part de ceux qui contrôlent, ceux qui n'auront pas de masque.
Audrey Pulvar au micro de Renaud Candelier et qui rappelle que la capitale est le 3e département le plus touché de France par l'épidémie. Dès demain donc, masque obligatoire dès 11 ans dans certains secteurs de Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise et le Val-de-Marne. Éric Dupond-Moretti prend acte de la censure du Conseil constitutionnel sur la proposition de loi imposant des mesures de sûreté aux anciens détenus pour terrorisme. Dans un entretien au Journal du Dimanche ce matin, le ministre de la Justice dit travailler à l'adaptation et au renforcement du dispositif, alors que le député LR Éric Ciotti réclame lui une révision de la Constitution. Et puis ces mauvais chiffres du tourisme dévoilés ce matin par Jean-Baptiste Lemoyne à cause de la crise sanitaire, des pertes d'au moins 30 à 40 milliards d'euros pour le secteur, estime le secrétaire d'État. L'émotion en Nouvelle-Calédonie après l'incendie de la grande case du Sénat coutumier, un lieu emblématique de l'archipel qui abrite 16 sénateurs kanaks. Un suspect a été arrêté, les précisions de Clarisse Watwe de la Première Nouvelle-Calédonie.
L'auteur présumé du sinistre est un homme de 29 ans. Il a été interpellé quelques minutes après le départ de feu signalé par l'agent de sécurité qui était de garde hier soir. Ce dernier l'a aperçu en train de prendre la fuite en direction de la plage. Lors de sa première audition à sa sortie de cellule de dégrisement, il a avoué avoir mis le feu volontairement à cette grande case. Il s'est présenté comme membre du bureau d'une association des squatteurs du radar de Nouville. Il a expliqué avoir agi seul et sur un coup de tête. Une réaction, selon lui, face à l'absence de soutien de la part des autorités coutumières à leurs revendications qui visent à l'alimentation en électricité ainsi qu'à la collecte des déchets. Il a déclaré regretter ses agissements, précisant qu'il venait d'avoir une dispute avec sa concubine. Sa garde à vue a été prolongée par le parquet pour poursuivre les investigations et procéder à l'expertise psychiatrique du mis en cause. L'auteur présumé de ces faits encourt une peine de 10 ans de prison. C'est la troisième fois que la grande case du Sénat coutumier est la cible d'incendie. Incendie qui se produit à moins de 3 semaines du renouvellement de la présidence de l'institution prévu les 29 et 30 août à La Roche, à Négoné.
Cocorico sur le Grand Prix Moto de République Tchèque aujourd'hui en l'absence du champion du monde en titre, l'Espagnol Marc Marquez, forfait sur blessure. La France est bien représentée aujourd'hui sur le circuit de Brno. Il y a bien sûr Fabien Quartararo en tête du classement provisoire du championnat, mais il n'est que deuxième. Guillaume Batin, la pole a été décrochée hier à la surprise générale par un autre Français, Johan Zarco.
Johan Zarco, 30 ans, 4e saison en MotoGP, 5 pole positions sans jamais voir un podium. Viré l'an dernier de l'écurie KTM pour manque de résultats, sa première place aujourd'hui en République tchèque est une énorme surprise, surtout au guidon de la Ducati, d'une écurie privée.
Très content, une pole fantastique, presque du mal à y croire parce que on a toujours dans un petit coin de la tête de vouloir être premier, mais on sent que la moto elle a un potentiel énorme. Et quand on arrive à tout mettre en phase, des fois on est surpris par le chrono, parce que le début de la qualif n'était pas terrible. Mais pour l'instant, vraiment du bonheur à prendre cette pole position et profiter de ça.
Fabio Quartararo, 21 ans, leader du championnat du monde avec 2 victoires en 2 courses. Encensé par la légende, l'Italien Valentino Rossi, le Niçois a tout pour devenir le premier champion du monde français.
Je me sens super bien. C'est vrai qu'on a, depuis le début du week-end, on a du mal à faire un tour rapide. Voilà, une petite chute. À la fin de séance, j'ai voulu pousser beaucoup trop. On donnera le meilleur. On sait qu'on a un bon rythme, donc voilà, on est prêt.
Après avoir décroché les 2 premières places sur la grille de départ, les pilotes français rêvent maintenant d'arriver ensemble aux 2 premières places sur la ligne d'arrivée.
Guillaume Batin du service des sports de France Inter. Le football au féminin aujourd'hui, finale de la Coupe de France, Lyon-PSG, c'est à 21h à Auxerre. Et si vous vous êtes transformé en oiseau nocturne pour mieux supporter la canicule, levez les yeux vers le ciel en ce moment. À partir de minuit, vous pouvez voir Mars à l'œil nu. La planète rouge est un peu la star du moment, vous le savez peut-être. 3 missions sont en cours vers Mars, dont Persévérance, à laquelle la France participe. Et l'objectif, c'est de comprendre son histoire et s'il y a eu de la vie à un moment. Question qui divise encore les chercheurs, Sophie Becherel. Dans le passé, l'eau a coulé sur Mars. Sur ce point, tous les spécialistes sont d'accord. Les observations depuis l'espace montrent des traces géologiques qui témoignent d'anciennes rivières, d'anciens lacs et deltas. Pour une grande partie de la communauté scientifique, cela a conduit à imaginer un climat chaud et humide il y a 3,5 milliards d'années sur la planète rouge. Mais pour d'autres spécialistes, ça ne colle pas avec la théorie. François Forget est chercheur au CNRS, spécialiste de Mars.
Comment, à cette époque-là, on a pu avoir un climat suffisamment chaud et humide, puisque le Soleil était plus faible qu'aujourd'hui, hein, il était jeune, il est moins lumineux, et puis Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, hein, on reçoit deux fois moins d'énergie sur Mars que sur Terre. Même avec une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone qui aurait été possible, on n'arrive pas à expliquer comment on pouvait avoir un climat aussi chaud.
Mars aurait donc connu un épisode froid qui n'est pas incompatible avec le creusement de vallées, mais pas par de l'eau qui circule à l'air libre, plutôt par un écoulement sous la glace, dit Anna Gros-Gallofret, qui signe cette étude. Comme ce que l'on voit au Canada, dans le Devon, c'est d'ailleurs par comparaison de 1000 vallées martiennes et terrestres qu'elle est arrivée à cette conclusion. Et la vie alors, a-t-elle pu quand même se développer? Michel Vizeau, exobiologiste au CNES, en doute.
Pour que la chimie puisse arriver à des produits qui amènent à la vie, il faut qu'il y ait de la lumière qui vienne. Et ça, c'est pas compatible d'une vie sous glacière.
Le débat n'est donc pas clos. Le retour sur Terre d'échantillons d'ici quelques années permettra peut-être de trancher.
Froid sur Mars, chaud sur l'Hexagone. On l'a dit, 15 départements restent en vigilance rouge canicule, du nord à l'Île-de-France en passant par la Seine-Maritime et l'Eure. On attend jusqu'à 40 degrés encore à Paris. Il y a aussi 49 départements en alerte orange, mais déjà début d'une dégradation orageuse. Prévision signée Jean-Michel Hameau de Météo France.
L'ensoleillement sera encore généreux cet après-midi de la région Poitou-Charentes au Pays de Loire et de la Bretagne à la Normandie, mais aussi des frontières allemandes au pourtour méditerranéen. En revanche, prévoyez un temps orageux sous un ciel chaotique entre le sud-ouest et le massif central, gagnant la région centre, le bassin parisien et le nord. Et attention, localement, ces orages seront accompagnés de fortes rafales de vent et de chutes de grêle. Côté température, la chaleur restera au menu de votre après-midi. Les maximales évolueront entre 31 et 38 degrés. Les températures nocturnes seront encore étouffante avec des valeurs en fin de nuit supérieures à 20 degrés, l'air sera quand même plus respirable vers la Bretagne. Demain matin, le soleil sera souvent au rendez-vous, excepté le long de la façade atlantique et au nord de la Seine où vous retrouverez un ciel chaotique, lâchant quelques averses orageuses. Et l'après-midi, des orages d'évolution diurne vont se déclencher dans la plupart des régions. Dans un contexte toujours caniculaire, le soleil fera quand même de la résistance dans le nord-est et autour de la Méditerranée.
C'était Jean-Pierre Hameau de Météo France.